Une production Balado Boréal.
Ce balado a été enregistré dans la salle du facteur culturel du Centre culturel du Mont-Jacob pour le théâtre La Rubrique. Mon nom est Bruno Paradis, comédien et metteur en scène. Aujourd'hui, je suis animateur du projet Espace scénique et je vous invite à découvrir les artisans du théâtre. Aujourd'hui, on reçoit Serge Lapierre. Salut Serge, comment ça va?
Ça va bien.
Oui? Oui. Commençons par le départ de qui est Serge Lapierre. Serge qui étudie au collège Hansik en arts et lettres, puis...
J'ai fait aussi une session en arts plastiques au cégep de Jonquière qui pour moi était déterminante.
Okay. Que tu l'avais fait avant?
Non, j'ai fait pendant, parce que j'ai fait un an en cinéma, puis je suis revenu faire une session en arts plastiques, parce que, bon, il y avait ma mère qui avait un petit problème de santé, ça fait que j'étais venu m'occuper d'elle. Puis après ça, j'ai fini mon cégep, après ça, j'ai repris en cinéma à Montréal. Mais cette session-là, en arts plastiques, à Jonquière, a été déterminante, parce que je dirais que j'ai fait une exploration des matériaux que je m'attendais pas à faire. Tu sais, je veux dire, on touche à la sculpture, on touche au dessin, puis je te dirais que le dessin, pour moi, c'est là que j'ai vraiment débloqué. Il y avait Luc Choquette, qui est un ami encore aujourd'hui, qui était mon professeur de dessin, puis on avait la technique du cerveau droit pour dessiner. Alors, on dessinait des trucs à l'envers, des dessins de Cocteau et tout ça, puis ça m'a permis vraiment de débloquer, puis d'arriver à dessiner ce que je voyais et non pas ce que j'interprétais là au niveau du dessin. Ça fait que ça a développé beaucoup ma technique. Puis après ça, bon, j'ai pratiqué. Mais je te dirais que cette section-là, en arts plastiques, j'ai rencontré aussi Pierre Dumont, qui était professeur là. C'était des rencontres vraiment marquantes puis qui ont duré dans le temps. Même si j'ai pas persévéré en arts plastiques, c'est des rencontres qui ont persévéré dans le temps, puis il y a beaucoup de discussions d'art qu'on a eues après, là, mettons à l'envol, là, en prenant une bière, tout ce beau monde-là. Mais ça m'a aidé beaucoup, là. Ça a été une session marquante pour moi, là.
Fait que ce moment-là, ces études-là que tu as faites en arts plastiques, comme tu dis, ça a été comme l'ébullition, ça a commencé, mais t'as pris un autre parcours quand même.
T'sais. Oui, j'ai pris un parcours qu'on appelle autodidacte. C'est dans le sens que moi, quand j'étais à l'école, j'avais l'impression que c'était toujours trop lent pour moi. Ça avançait pas assez vite. Fait que j'ai décidé après le cégep de je savais pas ce que je voulais faire. Tu sais, je voulais comme explorer plein de choses. J'avais fait du théâtre en tant qu'acteur plus jeune, là, puis j'avais fait toutes les shows de polyvalente et tout ça. Tout le monde me voyait comme acteur. Puis quand je suis parti à Montréal, ils m'ont dit oh, on va te voir à TV. Mais moi, c'était pas vraiment ça que je voulais vraiment. Je voulais plus explorer un petit peu toutes les facettes artistiques là qu'on pouvait imaginer. Là. Ça fait que j'ai fait des stages en danse, des stages en voix. J'ai joué dans des films étudiants à l'Université de Montréal. J'ai fait des pièces de théâtre à l'Université de Montréal. J'ai exploré beaucoup de choses. Mais je m'en rendais compte, plus j'explorais, que j'ai comme toujours un peu dessiné pareil, même étant jeune, que c'est tout le travail manuel qui m'attirait. C'était tout le côté plastique de la chose, là, tu sais. Puis, c'est ça. Après maintes performances et tout ça, je me suis retrouvé un peu...
d'être derrière la lumière, parce que tu étais là comme sous les projecteurs, souvent dans les projets.
Oui, c'est ça.
Puis là, c'était de passer un peu à l'ombre.
Oui, c'est ça. Puis, mais sans problème, parce que comme acteur, c'est pas que j'étais mauvais, mais j'étais plutôt cabotin. Tu sais, c'était comme, okay. J'étais pas, tu sais, je veux dire, je voulais plus à vous faire rire que d'autres choses. Fait que, je trouvais que le métier d'acteur, c'était très, très exigeant là, au niveau d'une discipline personnel,
une hygiène de vie
que j'étais pas prête à assumer à cette époque-là, à 20 ans. Fait que je préférais plus m'en aller là du côté de la production et tout ça là, ça m'intéressait plus.
Puis tu t'es promené un peu, comme tu disais, t'as développé la peinture un peu, t'as suivi de la danse un peu,
oui,
t'as fait
oui.
de la voix.
Oui.
Mais qu'est-ce qui t'a amené vraiment spécifiquement là, du jour au lendemain à devenir concepteur, parce que là, on t'invite aussi ce soir, entre autres, pour parler de ta profession de scénographe et oui. de concepteur de costumes.
Oui, oui.
Fait que quand est-ce que c'est arrivé comme ça dans ta vie?
Ben, je te dirais que c'est en faisant une parade de mode futuriste à Jonquière, parce qu'il y a, un gérant de bar qui m'avait lancé comme un défi. Tu es capable de faire ça, toi, une parade de mode d'ici une semaine futuriste avec des trucs récupérés?
En une semaine?
En une semaine.
OK.
Fait qu'en une semaine, là, on avait un atelier. On était une gang d'artistes à Jonquière. On avait un atelier qui s'appelait Sarasvati. Sarasvati, c'est la déesse de l'inspiration dans la culture hindouiste. T'sais, on était très peu ésotériques et tout ça. Bon, ben bref, c'est la vingtaine, on est dans la recherche. Et puis, bon, ben on avait au moins la chance d'avoir des beaux locaux qu'on partageait une gang d'artistes. Alors, dans cette semaine-là, je me suis donné corps et âme. J'étais à la maison de quartier, j'ai acheté plein de trucs. Mais tu sais, dans une thématique de blanc, de noir. Puis, j'avais fait un corset en métal pour la robe de mariée, tu sais, qui dit défilé de mode, dit à la fin une robe de mariée, mm-hmm. puis là, j'avais fait un voile en polytène, puis tu sais, je veux dire, m'étais donné, tu sais, pendant une grosse semaine. Arrive le soir, puis là, je m'étais trouvé aussi des belles filles, puis des beaux garçons pour faire le défilé. Et puis, arrive le soir, écoute, c'est bondé, bondé, je m'attends pas qu'il y ait autant de monde à la porte. Et puis, ben, c'est, écoute, gros succès. Et puis, dans la salle, il y a deux acteurs qui sont là, puis qui présentent, eux autres, ils préparent un théâtre d'été. Et puis, ben, ils viennent me voir après. Puis là, ils me disent, est-ce que les costumes, ça pourrait t'intéresser? J'avais fait quelques costumes comme ça, là, pour des amis, puis pour moi, à l'Halloween, là, c'est parce que j'étais un tripeux de costumes, là. Et puis, ben, j'ai dit, oui, pourquoi pas? Fait que je suis rentré là-dedans, là, comme un poisson dans l'eau, là. J'ai adoré mon expérience. Et puis, bon, ben, il y avait eu des bonnes critiques, tu sais. Je veux dire, on avait souligné mon travail. Et puis, ben, de fil en aiguille, j'ai rencontré Benoît, qui, lui, commençait à la rubrique.
Benoît, la grandeur.
La grandeur, oui. Qui commençait à la rubrique. Lui, avait joué au théâtre d'été, en même à la Puperie. Puis on s'était rencontrés un peu durant l'été, là, parce que moi, j'étais au côté court. Je faisais aussi le barman au côté court.
OK, mon
Dieu. Je veux dire, tu sais, au côté court, j'étais là longtemps aussi à faire le service de bar puis à être assistant directeur artistique avec Esther Jones, là. Et puis, ben c'est ça. Fait que j'étais barman aussi en même temps du théâtre d'été. Et puis, écoute, on s'est rencontrés là, cet été-là, dans un bar, moi puis Benoît. Hein, puis, jase, puis c'est ça. Il me dit qu'il va faire une production. Puis, écoute, j'ai embarqué après ça avec la rubrique, faire les feluettes, qui était un autre show de costume. Là, c'était vraiment mon deuxième show professionnel. Là. Et de fil en aiguille, ben
a découlé les autres productions. Puis, là. Fait que c'est que l'appel du théâtre est arrivé comme ça en tant que concepteur.
Oui.
Est-ce que tu as une vision différente de l'acteur au théâtre et du concepteur? C'est quoi pour toi, de ton œil de concepteur, le théâtre? Qu'est-ce que tu...
Ah, ben, je te dirais que le théâtre, pour moi, ça m'a tout appris. Hein. Tu sais, ouais. Je veux dire, pour moi, c'est une étude sur l'humain extraordinaire. Là. Je te dirais que ça m'a appris aussi, comment dire donc, toutes les auteurs. J'ai eu la chance de rencontrer, de travailler sur tellement de beaux projets. Pour moi, le théâtre, c'est la vie, donc j'ai pas...
C'est la représentation de la vie, vraiment.
Oui, absolument. Mais d'une façon plus poétique, tu sais, d'une façon plus... où on peut aller dans d'autres zones, et puis...
Parce que t'as travaillé beaucoup avec les auteurs vivants, du théâtre de création,
oui,
en fait.
Oui, j'ai surtout fait du théâtre de création.
Ouais.
Oui.
C'est quoi un peu le théâtre de création, si tu peux nous expliquer qu'est-ce que c'est pour les gens qui se connaissent moins?
Le théâtre de création, ça dit, je veux dire, on crée des œuvres pour la première fois. Tu sais, mm-hmm. qu'on prend des risques, là. Tu sais, c'est-à-dire que c'est un texte qui n'a pas été éprouvé. C'est un texte qui est tout neuf, qui sent encore le papier frais. Puis, puis souvent, ben, on commence une production, on a une version, puis on rencontre, on fait des... tu sais, je veux dire, on avance dans le processus, puis l'automne peut arriver, puis changer les choses, puis, tu sais, je veux dire, on est en processus toujours de création. C'est-à-dire que on se donne le droit jusqu'à la fin là, de changer des trucs et puis mais c'est pas des classiques et tout ça, c'est, tu sais, je veux dire, on essaie de donner leur juste, c'est-à-dire que l'auteur a écrit quelque chose, puis pour la première fois, ben il veut le voir, tu sais, il veut voir ses personnages vivre, il veut voir son univers évoluer là, c'est plus
dans c'est en constante évolution, ouais. Autant le texte que justement tout ce qui va se greffer autour, la conception des costumes, ouais. Du décor, ouais. Faut que tu, on est toujours un peu aux aguets à savoir qu'est-ce qui...
En théâtre classique, on peut faire des relectures, c'est-à-dire que, tu sais, je veux dire, quelque chose qui s'est passé au début du siècle, tu sais, on va essayer peut-être de l'adapter, en faire une relecture un peu plus contemporaine, tu sais, mais le théâtre de création, ben on essaie de faire une première lecture. C'est ça, puis sans se péter la gueule, puis se dire, bon, écoute, on va faire le mieux qu'on peut avec ce qu'on a, puis, tu sais, je veux dire, c'est ça.
Puis comment tu travailles, comment on travaille le théâtre de création, un premier texte, en tant que concepteur et de costume et scénographe, comment on collabore, avec qui on travaille, en fait?
Ben on travaille avec notre metteur en scène, en premier lieu. Mais puis toutes les metteurs en scène, il y en a pas un qui travaille de la même façon. Il y en a qui ont des idées très claires, très précises. Bon, ben moi je vois ça. Fait que tu réponds plus à sa vision à lui. Et il y a d'autres metteurs en scène qui eux autres c'est oh, propose-moi quelque chose. Et puis, tu arrives avec une proposition ou deux, puis c'est plus en collégialité. Là. Ça se fait plus avec tous les autres concepteurs. Puis là, on regarde les dessins, puis là, tous les autres concepteurs ont un petit mot à dire. Ah, ça, je préfère ça, tu sais. Bon, tu sais, je veux dire, comme quand on a fait les porteurs d'eau, je me souviens, j'avais fait des tonnes de dessins, là, puis j'étais parti sur un concept, puis il y avait un tout petit dessin que j'avais fait là, parce que j'étais comme juste me sortir de ce que j'avais déjà conçu. Puis c'est le tout petit dessin qui était qui sur le coin qui l'a emporté, puis tout le concept a pris le bord, puis on est reparti avec ce petit dessin-là. Là.
OK.
Ouais. Puis quelqu'un arrive, puis il dit « Ah, c'est quoi ça, le petit dessin en question? » »« Ah, oh, c'est une idée que j'avais eue. » Que ça bouge pas trop, qu'il y ait juste un élément, tu sais. Les autres affaires, j'avais 12 000 affaires qui bougeaient. Ah, puis tout le monde disait, mais ça, c'est intéressant, tu sais. Fait qu'on est allé vers ce concept.
Vers ce qui était moins préparé, moins conçu.
Moins préparé, mais il faut que tu restes ouvert, tu sais. Mm-hmm. Je veux dire, faut que tu restes ouvert à, justement à l'équipe, au changement, puis que tout le monde le porte, ce show-là, parce que c'est pas. Il n'y a pas juste le metteur en scène, il n'y a pas juste le scénographe et le costumier. C'est toute une équipe qui porte un show. Là. C'est fait que,
pour raconter, tout le monde est au service d'une histoire.
D'une histoire, absolument.
Mm-hmm. Fait que, tu sais, tu travailles, en fait, tu as deux chapeaux. C'est super important. Tu as le chapeau, encore une fois, de créer des costumes et de créer un décor. Tu es engagé parfois à faire un ou l'autre,
oui.
Mais très souvent, tu as été engagé pour faire les deux.
Oui. Ben, tu sais, je veux dire, ça dépend de l'univers.
Okay.
OK. Je te dirais, au niveau de la marionnette, quand on fait un spectacle de marionnette, quand tu crées les personnages de marionnette et tu fais la scénographie, ben ça devient un univers absolument cohérent parce que ça reste tout le même esthétisme.
Mm-hmm. OK.
En décor, on fait des rencontres et tout ça, mais quand on arrive aussi à comme, ça dépend, tu sais, je veux dire... Quand je conçois un show, puis que j'ai les décors, les costumes, c'est sûr que je tiens compte un petit peu de l'ensemble de l'œuvre, c'est-à-dire esthétiquement de quoi ça va avoir l'air là. Mais ça, des fois, ça dépend du. C'est une question de budget, tu sais. Je veux dire, ça, tu sais, on dit bon, ben les décors sont assez gros, mais les costumes, bon, ça sera pas si pire. Ça va être des costumes contemporains qui demandent pas trop de travail, plus du magasinage que de la conception, puis de la grosse fabrication. Tu sais, parce que les costumes, quand même, quand tu rentres à fabriquer. On est habitué, on voit qu'on est habitué d'acheter toutes nos affaires faites made in China, hein, tu sais, parce mm-hmm. qu'on se dit, ah, c'est trop cher. Si vous preniez la peine de tout faire les morceaux puis les découper, puis vous verriez que ces gens-là qui ils travaillent pour pas grand-chose, là.
Mm-hmm. C'est un nombre incalculable d'heures pour faire 14 costumes.
C'est ça, oui, absolument. Là, quand mm-hmm. tu rentres dans vraiment toute la. la fabrication. Là, il y a des spectacles comme les vacarmes ou des trucs comme ça qui sont presque toutes fabriquées. Là. Tu sais, on ajoute les chaussures, puis encore là, il faut les repeinturer, les sabler, puis les donner une patine. Mais tout va dépendre souvent du producteur. Tu sais, je veux dire, moi, souvent, j'en ai fait les deux, mais c'était... Justement parce que c'était des plus petites productions et tout ça. Là,
puis que c'était mieux d'avoir.
Où il y avait un énorme décor, mais deux personnages puis deux costumes. Tu sais, ça se peut, là, tu sais. Parce que t'as juste à penser à deux costumes pour le spectacle et non pas 12. Quand t'arrives avec 12 puis un gros décor, ben là, tu te dis, on va séparer la tarte en deux, là. Tu sais,
cette belle tarte en deux.
Oui.
Mais puis moi, j'en viens à la question aussi. Dans ces deux chapeaux-là, est-ce qu'à travers toute cette expérience-là et ces années-là de travail, de collaboration que t'as, est-ce qu'aujourd'hui, il y a un chapeau que tu préfères que l'autre?
La bonne question.
Ah, je savais.
Non, j'en préfère pas un que l'autre.
Non.
Je veux dire, j'ai des envies. Tu sais, je veux dire, quand ça va faire longtemps que j'ai pas travaillé sur des costumes, là, je vais peut-être avoir envie plus de travailler sur des costumes. Tout va dépendre du spectacle aussi, hein, qu'on va te proposer. Là, tu sais, je veux dire, c'est-tu un choix costume? Ça l'es-tu pas? On fait du théâtre de création, oui, mais ça peut se passer, tu sais, je veux dire, dans l'Antiquité, ça peut se passer
à une autre époque
complètement différente, qui va te demander de la recherche, puis là, ça va être le fun parce que tu vas rentrer dans les teintures de tissu, puis là, ça va te tenter de vraiment rentrer dans une conception costume. Mais ça va dépendre, tu sais, je veux dire, là, en ce moment, j'avais plus envie de travailler les costumes parce que j'ai fait beaucoup de scénographie pendant longtemps. Mm-hmm. Là, en ce moment, bon, comme je travaille beaucoup avec les fleurs, tout ça, j'ai comme des petits détails, ça fait que ça me tenterait là, de retravailler plus sur des costumes. Mais tu sais, je suis ouvert à tout, là. C'est juste que ça me prend des bons assistants. C'est comme parce mm-hmm. que on parle pas beaucoup des assistants, mais moi j'ai travaillé beaucoup avec des assistants parce que j'ai travaillé sur des gros décors, des grosses productions de costumes. Tout seul, j'y serais jamais arrivé. Impossible.
Quand on parle d'assistant, qu'est-ce que fait ton assistant ou ton assistante sur une production?
Sur une production, ben je veux dire quand on arrive en construction, ben c'est sûr que le bandit, tu le fais pas tout seul. Tu sais, mm-hmm. ça va te prendre quelqu'un pour t'aider à travailler tes matériaux et tout ça. Puis je veux dire, quand on arrive à des gros décors là, qui ont 20-25 pieds de haut puis tout ça, je veux dire, tu peux pas être tout seul.
Non.
Tu sais, je veux dire, tout sculpter le styrofoam et tout ça, il y a des trucs là qui sont des murs recouverts de styrofoam qu'il faut faire de la fausse brique, qu'il faut tout que tu sculptes ça recouvert de ciment. Deux, trois dans l'atelier à travailler. Ça fait que, tu sais, j'ai eu beaucoup d'assistants, puis des très bons assistants, là, vraiment, là, qui j'aurais pas cette carrière-là si j'avais pas eu une équipe à l'arrière de moi aussi. Mm-hmm. Tu sais, je veux dire, même au niveau des costumes, tu sais, je veux dire, j'ai travaillé au début, en costume à TVA.
À TVA, oui.
Et puis, chacun a ses rôles dans l'atelier de costumes. Tu as les habillards qui travaillent avec, quand on s'en va sur les plateaux. Tu as le chef d'atelier. Ensuite, celle-là qui est responsable de la couture. Ça fait que, tu sais, différents postes à l'atelier.
C'est une
chaîne. Et puis, t'as le coupeur. Moi, tu sais, quand j'étais engagé un petit peu comme couturier, mais comme j'étais un peu concepteur, fait qu'ils m'ont mis à la coupe. Tu sais, c'est à couper les costumes.
Okay.
Tu sais. Fait que j'ai travaillé un petit peu à tous les niveaux. Ça fait que quand t'as des assistants, moi, souvent, je fais les achats de tissus, je choisis tous mes matériaux. Je fais souvent beaucoup les coupes. Je coupe.
OK.
Puis après ça, ben, je fais faire des assemblages par des couturières et tout, parce que, bon, tu sais, des fois, il y en a trop à coudre ou...
Tu passeras le temps fou, les nuits blanches à
c'est
coudre.
C'est ça, à coudre et tout ça, là, tu sais. Et souvent, bon, ben, pour ce qui est des finitions, des patines, tout ça, ben, là, je vais les travailler moi-même pour finaliser, là, le tissu, parce que, tu sais, c'est beau, là, un costume, là, mais souvent, il y a bien trop de l'air neuf, là.
Oh, oui.
Ça se peut pas, là. Tu sais, tu dis, il n'y a pas de vécu, ce costume-là, là. Puis, là, le personnage, ben, tu sais, si il faut que tu sentes, là, que le costume, sais, ça sort pas du magasin, là.
Oui,
faut
c'est
que
ça.
T'as l'impression que lui, il porte, ça fait 3-4 ans, là. Ça fait que souvent, bon, ben, tu salis un peu, puis tu sais, puis il y a toutes des techniques que tu fais que tu salis, puis tout ça, puis il faut que tu t'arranges pour que les patines soient bien faites. Parce que moi, ça m'est déjà arrivé qu'ils reviennent de chez le nettoyeur, puis une patine.
Tu fais, non!
Il faut que je recommence. Tu sais? Fait que là, tu te dis, ben là, je vais y aller plus fort, là, tu sais, on va aller avec plus que de la teinture, là, on va mettre des encres, puis voyez, on va y aller fort pour pas que ça revienne de chez le nettoyeur, puis que... Ça, il est neuf.
Fait que il y a beaucoup d'apprentissage constante aussi à travers autant du costume que du décor que parce qu'il y a de la tricherie souvent au théâtre.
Oui, 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 c'est constamment ça. Là.
On triche justement beaucoup sur l'aspect de vieillir les choses ou de la brique. On ne va pas nécessairement employer de la vraie brique pour un décor.
Non, non.
Tu parlais de styromousse tantôt.
Oui.
C'est lequel le décor que tu as fait qui avait le plus de trucage, qui avait le plus de tricherie?
Ben, de trucage, je te dirais, c'est un de mes premiers décors, qui s'appelait Les Vacarmes. Et il y avait deux grands murs de lycra noir. Mm-hmm. Puis, il était comme en angle. Et puis, bon, ben, dans les didascalies, souvent, on lit les didascalies dans un texte. Et puis, celui-là, il était... Alors, écoute, c'était là, c'était le party là, de la didascalie.
les didascalies en passant, c'est qu'ils sont comme des notes.
Des notes. Puis là, une corde tombe du ciel. Et une corde tombe du ciel.
Okay.
Et puis le personnage disparaît par la corde. le fonctionnaire traverse le mur. En tout cas, il y avait toutes sortes de trucs comme ça. Il y avait la tête dans le mur, puis tu sais, je veux dire. Je me souviens, on était avec Serge Potvin, puis il m'avait fait une balançoire pour que la tête se promène dans le mur, de haut en bas comme ça, mais d'un effet très vite, tombé, OK? Il y avait toutes sortes de trucages comme ça, passer par le plancher, tu sais, c'était infini, là. Puis on était dans trois univers différents dans la même pièce, tu sais. On était dans le logement des protagonistes. Ils se faisaient expulser. Ils se retrouvaient sur une traque de chemin de fer. OK? Puis après ça, il se retrouvait sur la Lune. Je me souviens plus.
Simplement.
En tout cas, il se retrouve dans un bureau de fonctionnaire. En tout cas, il y avait trois univers complètement différents. C'était complètement disjoncté. Je te dirais, au niveau des trucages, là, de Senno, ça a été pas mal, mais des mécanismes de Senno, j'en ai fait plein, là.
Ouais.
Je veux dire, il y a plein de choses, là, que les gens te demandent. En marionnette aussi, là, dans les décors, c'est beaucoup de petites portes, puis de beaucoup d'affaires qui ouvrent, puis de transformations d'objets, là. Je dirais un autre show que je suis très fier, c'était Ma maison face au nord, parce que le personnage était un entrepreneur, puis on était parti vraiment juste d'un grand comptoir de cuisine avec des armoires.
Okay.
Et puis, cette espèce de gros bloc-là, là, en tirant sur les tiroirs, ben là, il apparaissait des escaliers. Là, tu pouvais tirer sur un tiroir, puis là, la table de cuisine était là, puis les deux bains arrivaient. Tu sais, je dirais que ça, au niveau de la conception, là, puis de toute la mécanique que ça demandait, là, je trouvais que c'était vraiment un de mes beaux shows que j'ai vraiment aimé, parce que ce show-là, il s'est promené un peu partout, mais aussi, c'était comme l'espèce d'ingéniosité. Ça devenait une montagne.
La transformation
de ce bloc-là, puis il y avait du sens. Tu sais, c'était un bloc qui avait du sens, parce que là, lui, il était entrepreneur, il avait construit des maisons et tout ça. Tu sais, j'étais parti de lui refaire sa cuisine, puis, tu sais, je veux dire, c'est fonctionnel, tu sais. Puis ce bloc-là devenait une montagne aussi, à un moment donné, là, tu sais, en ouvrant les portes, c'était...
C'est ça qui est d'une grande beauté au théâtre, c'est qu'on peut suggérer aussi,
oui,
de par différents objets ou différentes, justement, conceptions, on peut suggérer beaucoup de choses.
Puis le spectateur, ben fait le reste, tu sais, puis, tu sais, c'est là qu'il embarque, parce que, tu sais, il voit bien ce côté ingénieux, là, de la chose, mais t'es pas obligé de l'avoir, la montagne, tu sais. Mm-hmm. Il la voit, là, avec des effets d'éclairage, il y a du son, il y a, tu sais, je veux dire, tout ça contribue à l'éclairage et le son contribue aussi à magnifier tout ça, là, puis
À rentrer dans l'imaginaire, en
oui,
fait.
Oui, absolument.
C'est quel matériau qui t'a donné le plus de fil à retordre dans ton, dans des conceptions?
Mon Dieu! Je te dirais que j'ai tellement travaillé tous les matériaux.
Oui, hein, c'est ça, le bois, l'aluminium, t'as travaillé avec toutes sortes d'affaires, là.
Toutes sortes d'affaires. Le ciment, le styrofoam, vraiment tout. Le plexiglas.
On dit le plexiglas qui est très cher en ce moment.
L'aluminium, ouais. beaucoup. Ben c'est sûr que l'aluminium, je fais pas de soudure. Tu sais, j'ai eu un petit cours de soudure là, mais pas assez là pour me lancer là-dedans. Puis souvent, l'aluminium nous sert souvent à faire des gros cadres très légers qui vont servir à faire des structures qui sont plus légères. Puis qui se manipulent mieux, mais qui nous permettent aussi d'aller chercher des formes différentes. Mm-hmm. Tu sais, on peut le courber, puis fait que ça, j'avais plus un soudeur. Mais tu sais, je veux dire, on fait appel à des sous-contractants qui sont aussi des artistes, et puis c'est ça la beauté de la chose, hein. C'est des rencontres, là, puis ça te permet d'aller voir justement d'autres artistes. Tu peux venir travailler sur mon œuvre, puis...
C'est de savoir s'entourer, c'est beaucoup de curiosité, en fait, puis de pouvoir manipuler et de connaître les matériaux, là.
Oui, puis c'est aussi... ça m'a pris un certain temps, mais... connaître les matériaux, c'est aussi de savoir aussi que il y a des matériaux que on ne retrouve pas ici, hein, en région, parce que quand on s'agit de grandes toiles de scéniques qui font pas de couture 30 pieds de large par 20 pieds de haut, ben ça, ben tu sais, maintenant
faut commander
à l'extérieur, tu sais, mais tout ça existe. Tu sais, tout ça, ces matériaux-là existent. C'est juste que des fois, faut se renseigner de savoir ils sont où. Tu sais, je veux dire, je travaillais beaucoup aussi avec le coton fromage, mais le coton fromage, ça coûte une fortune si tu vas pas l'acheter par une compagnie de boucherie qui, tu sais, pour faire le fromage ou ces trucs-là. Là, tu peux l'avoir en prix du gros. Puis, bon, t'as signé avec le fournisseur que t'es pas bouché, mais c'est pas grave. Oui, t'en as de besoin. Fait que... Puis c'est important pour toi, tu sais. Fait que, mais c'est ça, c'est de se faire ami avec justement des fournisseurs, avec parce que tu vas avoir toujours besoin de matériel et faut aller chercher des contacts, tu sais, je veux dire.
C'est la business aussi.
Ben, c'est
la
une
partie
forme,
business.
C'est une forme de business, mais c'est surtout une forme de réseautage. Mm-hmm. Tu sais, c'est d'être capable de dire, faut demander. Faut pas rester là à dire puis chercher tout seul puis sans rien demander là, tu sais. Faut que tu en fasses des appels à tous. Est-ce que je peux trouver ça, puis il va y avoir toujours quelqu'un qui va arriver puis il va te donner une réponse.
Ouais, il va te guider au moins
un peu.
Il va te guider au moins vers où
là, tu sais.
Fait que tu sais, là on parle de matériaux, on parle déjà de construction, mais je vais revenir à la base, une conception de décor. On t'engage sur un projet. On peut prendre en exemple un des derniers projets que tu as fait, l'État, que tu as fait ici au Théâtre de la Rubrique. Bon, il y a un texte, on parle du texte. Déjà, il y a un décor de suggérer, une ambiance, il y a un lieu, au du moins.
Oui.
Et tu y vas avec ça. Mais comment tu procèdes, en fait, après discussion avec le metteur en scène et tout, lecture de la pièce, est-ce que tu as une méthode de travail? Est-ce que tu y vas avec croquis? Est-ce que tu travailles la maquette?
Je pourrais dire que j'ai changé avec le temps.
Okay. Oui.
Au début, je faisais beaucoup de dessins, okay? Au niveau de scénographique, tout ça. Maintenant, je procède d'une autre façon. Je procède plus par des petits blocs, okay, que je vais faire à l'échelle,
okay,
puis que je vais déplacer dans l'espace pour me donner une idée des hauteurs, de largeur, de ce que ça va avoir l'air avant de dessiner.
Okay.
Pour moi, ça va me donner plus l'idée du spatial, là, tu sais, de ce que ça va être dans 3D. Après ça, je vais revenir à un dessin plus fini, parce que j'aime vraiment le dessin, puis j'aime vraiment qu'il me reste quelque chose en 2D. Mm-hmm. Tu comprends-tu? Parce que les 3D, les maquettes, ça prend de l'espace, là. Moi, si je pourrais même pas avoir un local pour mettre toutes les maquettes de décors que j'ai faites. Je te dirais que les trois quarts sont ici à la rubrique entreposés un peu partout. J'en ai quelques-unes chez moi, mais juste pour mettre les maquettes, là, des fois, là, c'est gros, et j'aurais une pièce juste pour ça à la maison, là. C'est impossible, là, tu sais. Fait que le 2D, c'est le fun, au moins, il te reste, tu sais, de quoi, là, tu sais. Mais je travaille beaucoup maintenant avec des blocs.
Fait que les blocs, en fait, juste aussi pour qu'on soit sûr aussi, puis à la maison, là, les blocs, c'est quelque chose à l'échelle.
Oui, c'est... je vais faire à l'échelle, là. Ben, on va partir d'un espace, tu sais, là, quand c'est pour être créé ici, là, je vais prendre la surface ici. T'sais. Puis là, je vais travailler avec les blocs pour voir qu'est-ce qui fonctionne bien. Puis, pour aller chercher vraiment la bonne dimension, soit du praticable ou soit du, de l'espace de jeu, tu sais. Parce que, tu sais, faut bouger là-dessus. Il y a des comédiens. Puis les comédiens, ben, je veux dire, il y en a, oui, qui ont 20 ans, mais il y en a qui ont 60, 70 ans. Mm-hmm. Et puis, bon, il y a, tu sais, quand on est au théâtre, on met pas toujours un garde, on met pas toujours un, fait que, ça tente pas de voir la comédienne planter, puis dire c'est de ma faute, non, non, non. Fait que, tu sais, faut que tu calcules tous tes espaces de cette façon-là, ça fait que ça te permet en 3D de dire « Ah, je peux rajouter un 6 pouces, je peux rajouter un pied, ça va être plus confortable. Là, je peux en enlever un, c'est juste un passage. » Tu sais, mais il faut garder un espace minimum pour que ça passe. Tu sais, c'est tout ça que tu calcules un petit peu plus pointu avant d'arriver à dire « Bon, ben je vais passer à... » Tu sais, dans ça là, je travaille moins sur la maquette. Tu sais, je le recommence moins souvent. Mm-hmm. Tu sais, c'est plus une fois qu'on arrive avec ces petits blocs là qui sont pas peints, rien, qui sont. Puis là, après ça, on peut l'esthétiser. Après ça, on peut le rentrer dans quelque chose de plus, je te dirais, graphique. Puis
tiens, c'est là qu'on va parler un peu plus de couleurs.
De couleurs, de matériaux. Mm-hmm. En quoi on va faire ça? De quelle couleur? Puis tu peux, je veux dire. Peut harmoniser ça si tu fais les deux, mais quand tu travailles avec un autre une costumière ou un costumier, ben là il faut que tout ça, ça va être quoi ta palette de couleurs, tu sais, il faut pas rentrer en conflit,
faut que ça s'harmonise,
tu sais, des fois on dit ah les costumes vont être plus c'est plus neutre, puis on va donner plus d'accent sur la scénographie, ou on va donner une scénographie plus neutre, on va donner plus d'accent sur les personnages. C'est des choix de metteur en scène, c'est des choix de
Et même sur l'éclairage ou de la projection
oui,
aussi.
Oui, absolument, parce qu'il faut tenir compte de la projection, ça, quand il y a tellement de shows maintenant qu'il y en a, là, presque toutes. C'est rare qu'il n'y en ait pas là, de projection. Fait qu'il faut tenir compte de ça aussi au niveau des surfaces, là, mm-hmm. de ce que tu vas choisir comme matériau pour faire ta projection. Là.
Fait que tu y vas beaucoup d'une manière, je dirais, très pratique, à savoir oui. comment les gens vont pouvoir bouger dans ce décor-là, dans cet oui. espace-là. Qu'est-ce qui est sécuritaire aussi. Puis après, t'apportes la zone un peu plus esthétique et oui. Artistique à tout oui. ça. Et là, tu travailles aussi avec la maquette. Juste pour dire aussi à la maison, pour certains, une maquette, c'est un plan de la salle fait à l'échelle, puis oui. c'est quelque chose qui est fait en 3D, c'est oui. ça? Fait que tu travailles avec la maquette, toi.
Oui, tout le temps. Décor, costume, tout est dessiné, toutes les couleurs. C'est sûr que, bon, ça peut évoluer, là, tu sais, comme justement l'état, comme mm-hmm. on parle. Bon, la patine des murs étaient trop clairs, il y avait trop de surface réfléchissante. Le décor, il est devenu de plus en plus foncé, tu sais, okay. je veux dire, il est parti de quasiment blanc, puis il était vraiment gris, assez foncé, là, enfin. Mais les éclairages, tu sais, il faut s'ajuster aussi aux éclairages. Fait que, pour avoir cet effet de ciment et tout ça, là, il a fallu aller dans quelque chose de plus foncé pour...
Même de ta maquette, le point de départ, il peut y avoir beaucoup de changements qui vont se faire
oui,
par la
ben,
suite.
Ça ne sera pas des gros changements. Ça va être plutôt des changements esthétiques. Tu sais, je veux dire... parce que quand tu as déterminé vraiment les espaces comme des praticables ou ces trucs-là, c'est rare que ça change. Tu sais, ça va être plus justement au niveau des couleurs et au niveau des matériaux. Là, c'est ça qui va changer. Là.
OK. Tu sais, puis qu'est-ce que ça permet, la maquette?
La maquette, ça va te permettre d'avoir une petite idée des coûts de production. Je veux dire, quand on est rendu dans des plus gros décors comme ça, qu'il faut engager justement des assistants et tout mm-hmm. ça, ben il faut que tu calcules un petit peu ton temps que tu vas passer dans l'atelier. C'est sûr que tu as tous les coûts des matériaux, tout ça. Fait que quand tu arrives, que tu as ta maquette en 3D, tu sais exactement là, que tu vas avoir besoin de deux feuilles de plywood pour lui, trois pour lui, tu sais, tant de bois pour ça. Fait que ça te donne vraiment une idée de... T'es parti avec un budget, puis là, ben te dire, bon, ben ça va coûter ça. Tu sais, puis ça va prendre tant de temps, parce que le temps que tu prends à réaliser tous tes morceaux, puis la peinture que tu y mets dessus, mm-hmm. ça te donne une petite idée de comment ça va prendre de temps à l'atelier de le faire.
Fait que ce ouais. qui est fait à l'échelle, vraiment, d'une ouais. manière visible, ça te permet aussi de donner une échelle, d'un échéancier de travail.
Oui. Parce que, tu sais, je veux dire, à un moment donné, on avait fait un show où il y avait comme 6 fournaises, OK? Puis, bon, je savais bien que j'avais pas les moyens de les faire faire en métal, tout ça, puis qu'on ferait des fausses fournaises en bois avec la scie sauteuse. Fait que là, je me suis mis à toutes les faire les petits carreaux avec l'exacto. Et là, tu arrives à l'atelier, tu dis, ça va être long. Mais, tu sais, t'es préparé mentalement aussi, mm-hmm. tu sais, à dire, bon, ben, ça va être long, puis on va passer au travers, puis on va le faire, tu sais. Mais...
C'est intéressant. Fait que c'est ça, ça donne ça donne une idée du temps de travail, du coût aussi qu'il va y avoir.
Oui.
Puis, en tout et partout, ça donne une idée à l'équipe aussi visuellement de qu'est-ce que ça va donner.
Oui, absolument. Parce que là, c'est à part quelques couleurs des fois qui changent, toute l'équipe sait dans quoi qu'ils s'embarquent. Tu sais, je veux dire, ça, dès le début presque. Là,
puis pour les comédiens aussi qui savent dans quoi ils vont jouer.
Oui, oui. Oui, tu sais, ça fait que, oui, il y a toujours la marche dans le décor qui est toujours étrange pour un comédien, là, pour tout ça, là, tu sais. Mais elle est moins difficile quand tu sais vraiment dans l'univers dans lequel tu vas évoluer, là, tu sais.
Tout à fait, l'impact que ça, parce qu'un décor, la grandeur que ça peut avoir, s'il y a tant d'espace ou moins d'espace, va jouer beaucoup sur l'interprétation, en fait, du comédien, ça peut influencer énormément.
Oui, oui, oui. Puis tous les murs qu'il y a en arrière que t'avais pas au niveau du son, il y a plein de choses qui rentrent en ligne de compte là, dans les derniers milles, là, tu sais. Hein.
Exactement. Tu sais que la voix qui peut se perdre, comme on dit, dans cette cage de scène-là,
oui.
C'est quand on a un décor qui est beaucoup plus habité, ben le son il va être soit plus étouffé ou va être plus dirigé vers la salle.
Oui.
Mais tout à fait. Puis concernant encore les comédiens, ben comme concepteur de costumes, habiller les comédiens... ça change aussi beaucoup pour le comédien.
Écoute, j'appelle ça sa peau.
C'est la peau, hein?
C'est la peau du personnage, tu sais, je veux dire, souvent, même quand le comédien, il va même changer d'attitude. Toutes ses répétitions, il va s'ajouter une couche supplémentaire quand ils vont enfiler le costume. Là, puis c'est pas pour rien que les trucs les premiers qui arrivent au niveau des costumes, c'est les souliers.
Oui. Et puis... on attend les souliers en tant que comédien.
Tout le monde attend les souliers. Parce que, bon, écoute, c'est...
Pourquoi, c'est... en fait, c'est ça? La comédie attend les souliers.
C'est parce que tu marches dedans. Puis là, en tant que concepteur, ben, c'est sûr que, bon, il faut toujours faire attention au son que font ces souliers-là aussi. Mais, tu sais, tu t'arranges pour justement qu'il en fasse le moins possible du son. Mais on le sait que tu sais, c'est avec ça qu'il marche, c'est avec ça qu'il évolue. C'est ça qui va lui donner soit la hauteur, tu sais, qui va donner...
La posture
de son personnage, tu sais. Je veux dire, c'est pour ça que, bon, c'est pas mal ça qui arrive en premier, les souliers du personnage.
Ah, même dans les répétitions, hein.
On est
beaucoup qui aiment ça avoir ça dans les
absolument.
Répétitions.
Oui, absolument. Mais je trouve que le costume, c'est quelque chose de plus intime avec l'équipe de production. C'est-à-dire que quand tu fais le décor, tu ne rentres pas dans une intimité de la même chose avec les comédiens que quand tu fais le costume.
Uh-huh.
Mais non, c'est pas la même chose. Là, parce que là, tu rentres dans l'intimité de la personne. Tu rentres dans son corps. Et puis, ben, y a toutes sortes de corps. Hein.
Qu'est-ce que les gens assument d'eux-mêmes ou aussi de leur propre
oui,
corps?
Oui, absolument.
Parce que parfois, pour un comédien, un personnage va être un peu plus dénudé ou peu importe.
Tout ça, c'est des choses qui se travaillent longtemps d'avance avec le comédien. Là. Sa tête, ses cheveux, c'est tout ça. Là, que parce que tu rentres dans l'intimité de l'acteur, tu sais, je veux dire, oui, lui, il s'abandonne pour le personnage, mais il reste l'acteur en arrière quand même, tu sais. Puis il y a des fois, il y a toutes sortes de zones de résistance. Il y en a qui résistent, il y en a d'autres qui résistent pas. Tu sais, je veux dire, il y a toutes sortes de d'approches.
Est-ce que c'est déjà arrivé? Qu'il y a des costumes qui fonctionnaient pas, mais non pas parce que ça allait pas avec la pièce ou avec le personnage, mais ça allait pas avec l'interprète. Le comédien ou la comédienne ne voulait pas le porter ou ne pouvait pas le porter.
C'est arrivé, mais assez rarement, je te dirais. Tu sais, je dirais... Mais c'est peut-être plus en début de carrière que ça m'est arrivé.
Okay.
Mais sinon, j'ai rencontré que des gens assez sweet. Là. C'est surtout quand on arrive... Je te dirais, aux cheveux. Tu sais, ça va dépendre du personnage. Il y en a que tu vas imposer tout de suite. Bon, on va aller avec la perruque, ça va être moins compliqué. Puis, tu sais, mais il y a des acteurs qui se disent, bon, ben, ah, la perruque, ça me tente pas, fait que je suis prêt. Puis là, ben, une fois que c'est fait, là, la tête orange, pas sûr que je vais l'assumer. Ou ben, tu sais, c'est des trucs comme ça, là, tu sais, qui font, ils ont été sur une teinture, puis là, ils la regrettent, mais, tu sais. Mais, tu sais, c'est ça. Fait que, au début, on faisait de la teinture de cheveux puis des coupes de cheveux. Aujourd'hui, je privilégie beaucoup la perruque.
Oui. C'est moins compliqué.
Mais, tu sais, je veux dire, il y a des fois que ça marche pas à perruque. Tu sais, des fois, il faut parler de la coupe de cheveux puis, tu sais, du personnage et tout ça. Puis, bon.
Parce que c'est tout ça qui fait partie aussi de ton travail. Oui. Ça va jusqu'aux cheveux.
Oui, ça va aux cheveux, les maquillages. Tu sais, je veux dire, c'est peut-être pas toi qui vas faire la conception des maquillages. Mm-hmm. Mais en tant que costumier, t'as un mot à dire. Tu sais, je veux dire, il peut pas arriver un maquilleur comme ça, puis te faire une peinture dans la face du personnage, puis que, oups, non. Tu sais, je veux dire, il faut que ce soit un accord avec le metteur en scène et tout ça. Souvent, le costumier va penser à la tête du personnage et à son maquillage.
Mm-hmm. Fait que dans tout ce que t'as fait, penses-tu que tu t'es jamais censuré?
Non, je pense pas.
Non. Toujours dans la liberté.
Tu y vas dans la liberté, puis après ça, ben c'est l'équipe qui ramène, et puis en tout cas, c'est pas moi quand il y avait un personnage nu sur scène, c'est pas moi qui le décidais. Là, c'était dans en tant que costumier, non, c'était dans le texte. Tu sais, je veux dire, tu sais, on s'arrange pour rendre ça le plus élégant et le plus facile pour l'acteur aussi là, quand il y a ce type de scène là, mais ça, tu sais, il y a tout, il y a des fois des semi-nudités, on s'en va acheter des sous-vêtements, tu sais, je veux dire, le costume, ça peut être juste des sous-vêtements, puis, tu sais, en danse, c'est beaucoup ça, hein, mm-hmm. Le sous-vêtement, fait que, tu sais, on va souvent dans l'intimité des gens et tout ça, mais il faut respecter l'interprète, l'œuvre, puis...
Fait que jamais dans la censure, toujours dans la liberté, c'est le projet qui fait en sorte que on révise puis on s'en va plus directement vers l'essence même là,
oui,
tout ensemble
absolument,
du personnage.
Ouais, c'est ça.
OK. Ben Serge, je te remercie pour l'expérience de ce soir, mais aussi pour toute l'expérience de ta carrière, puis on en souhaite encore plein d'autres expériences avec toi.
Bien, merci.
Je te remercie énormément pour le temps.
Avec plaisir.
Nous, discuter. On aurait pris encore une heure, mais ça a l'air qu'il faut s'arrêter à un moment donné.
Ben oui.
Merci tout le monde à la maison aussi d'avoir assisté au dernier épisode de Espace Scénique. Mon nom est Bruno Paradis et à une prochaine. La série Balado Espace Scénique est produite par Balado Boréal grâce à la participation financière du Conseil des arts et lettres du Québec en partenariat avec Télé-Boréal. Une idée originale de Marie-Lou Gay-Deschênes. Merci à toute l'équipe de la rubrique pour leur aide précieuse, à Charles-Maxime Lemay au son, Philippe Jonca, Julien Desmeul et Kevin Saint-Pierre à la technique, Marc-Antoine Gay pour la musique originale, Carl Gaudreau et Caroline Gagnon à la réalisation et production. Merci d'avoir été à l'écoute.
Une production Balado Boréal.